retour à On a des choses à dire, présenté par Lucien Day, le Parizeau cabinet d'assurance, Meubles André Beaulieu, le comité des usagers Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Lors de l'élection de notre prochain invité, il est devenu le député de Richelieu de la CAQ ce mardi le 1er octobre, à un an déjà. Jean-Bernard Raymond, bonjour.
Bonjour.
Bon anniversaire d'abord.
Merci beaucoup. J'ai soufflé une bougie sur le gâteau cette année.
Vous avez soufflé une bougie, effectivement, et est-ce que de souffler cette bougie-là a été ardu ou si vous êtes confiant d'avoir du travail accompli, d'être fier du travail accompli?
Ah, fierté, je pense que c'est le bon mot. Vous avez mis le doigt dessus, puis je dresse un bilan positif de notre première année en poste. Mais un an déjà, moi je trouve que c'est fou quand même. Ça va vite, mais en même temps, il y a eu beaucoup de travail déjà accompli. Je dois vous dire que j'adore ça. À chaque matin, je le dis à ma conjointe, je m'efforce de me le rappeler avec beaucoup de fierté puis d'humilité aussi, il faut que je le dise. L'immense privilège que les citoyens ont fait de m'accorder leur confiance pour les représenter. Puis ben ça me pousse à travailler encore plus fort pour la suite.
Alors, le bilan a été publié, votre bureau a publié un bilan et vous y allez avec plusieurs points dont vous voulez qu'on se souvienne finalement pendant cette année-là. Entre autres, on parle de l'octroi de 8,5 millions de dollars par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour l'école intégrée d'Yamaska. Ça faisait pas partie d'un programme qui était à long terme, ça?
Non, pas du tout. Je pense que, vous savez, tout ce qui touche la jeunesse et l'éducation, ça fait partie de mes priorités. Puis mon coup de cœur pour la dernière année, bien, vous avez mis le doigt dessus, parce que après 8 ans d'attente, plusieurs refus des gouvernements précédents, le projet d'agrandissement d'école était déposé à chaque année, puis continuellement refusé. Puis moi, dès mon arrivée en poste, j'ai pris le dossier, je l'ai mis dans mon petit baluchon pour le monter à Québec, puis je suis vraiment heureux qu'on ait pu finalement avoir un dénouement positif avec l'annonce, là, vous l'avez dit, de l'octroi de 8,5 millions de dollars. Très fier. Je salue d'ailleurs le travail de Mme la mairesse de Tonnancourt à Yamaska, puis les gens de la commission scolaire qui ont travaillé fort avec moi dans ce dossier-là. Eux ont été résilients parce qu'ils auraient pu baisser les bras après 8 refus, puis de pas redéposer la demande. Puis on l'a fait tous ensemble, et puis avec les interventions, on est venu en mesure de faire atterrir, comme on dit dans le comté, ce beau projet-là. Moi, je suis très fier. 8,5 millions pour la première année. Alors, on peut continuer en éducation pour le cégep de Sorel-Tracy. Son financement annuel a été bonifié de 1,3 millions. Puis ça, c'est en cause d'une révision qu'on a fait au gouvernement de la formule de financement des cégeps qui vient améliorer le sort des petits cégeps comme le nôtre à Sorel. Puis encore une fois, en éducation, tout récemment, là, c'est tout chaud. On a annoncé plus de 15 millions de dollars pour les rénovations d'écoles dans notre région. C'est un peu le début de, avec le ministre, on appelle ça le grand rattrapage pour nos écoles, parce que c'est pas un secret pour personne, là, ils ont besoin d'amour. Puis tout ça, là, je pense que ça démontre bien l'engagement de notre gouvernement envers l'éducation et les services en région. Puis ultimement, c'est nos jeunes qui en sortent les grands gagnants. Là.
Et quand on parle d'éducation, on peut pas passer à côté de toute la réforme du mode de scrutin scolaire, la réforme du mode des commissions scolaires. Ça commence à avoir certaines inquiétudes là-dedans. Est-ce que vous êtes confiant des prochains gestes que va accomplir votre gouvernement là-dedans?
Ah oui, tout à fait. Bien, c'était un de nos engagements forts, oui. Connu depuis très, très, très longtemps, qui, je dois le dire, est fortement avalisé par la population aussi, là. Les gens, je crois, sont derrière nous dans ce projet-là. Le ministre Roberge a déposé le mardi le projet de loi 40 qui vise à moderniser la gouvernance scolaire. C'est un projet de loi, selon moi, qui est incontournable. Ça va nous permettre de diminuer la bureaucratie puis d'augmenter les services aux élèves. On va dépolitiser la gouvernance scolaire puis mettre fin aux élections scolaires qui, selon moi, étaient inutiles et coûteuses, là, avec un taux de participation insignifiant d'à peu près 4-5%, je le dis en tout respect, puis ça va quand même générer des économies d'environ 45 millions sur 4 ans, puis ces sommes-là vont retourner directement dans les services aux élèves, hein. Ça va, on parle d'environ peut-être 160-170 spécialistes de plus. Il faut pas, là, je tiens à rassurer les gens de la région, il n'y a pas de perte d'emploi, puisque les commissions scolaires vont être transformées en centres de services qui vont être au service des écoles. C'est vraiment un changement de gouvernance, puis moi, je pense qu'avec ce projet de loi-là, pardon, on rapproche la prise de décision de ceux et celles qui connaissent les élèves par leur prénom. Là. Puis ouais. Je pense que c'est un point important pour améliorer notre réseau scolaire. Très heureux que le projet de loi soit déposé. C'est normal qu'il y ait des inquiétudes. Ouais. On va entendre les groupes. Moi, je fais partie de la commission qui va recevoir les groupes. On va, avec les oppositions, discuter en détail de chacun des articles du projet de loi pour aboutir tous ensemble avec quelque chose qui va être gagnant pour nous.
En fait, les craintes que l'on entend comme journaliste sur le terrain sont un peu les mêmes que l'on a entendues lors de la réforme Barrette, parce que la réforme Barrette, ça aussi, c'était pas un lapin sorti d'un chapeau, c'était quelque chose qui était annoncé en campagne électorale. Et quand ça s'est appliqué, ben c'est là que les gens ont fait face à des surprises et ont fait face à des déceptions. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, les gens craignent cette réforme-là du mode scolaire.
Ah, je comprends très bien, puis vous faites bien de soulever, parce que ça a été porté à mon attention aussi, puis c'est vrai qu'on a été chaudé par la réforme dans le domaine de la santé par nos prédécesseurs dans les dernières années, mais vous savez quoi? Le ministre Roberge, puis il l'a clairement dit dans une rencontre en entrevue, on a regardé comment ça s'est passé au niveau de la réforme des structures du ministre Barrette, puis on fait exactement le contraire, c'est pas compliqué, c'est une décentralisation. Le ministre Barrette là, a coupé des structures régionales, a centralisé. Il s'était donné le droit de nommer lui-même les DG, les directeurs généraux, les membres des conseils d'administration. Alors, c'est complètement l'inverse avec le projet de loi pour les commissions scolaires. On donne plus de pouvoir en bas au centre d'établissement, aux directions d'école. Ce sont eux qui vont voter, qui vont mettre leur père au sein du conseil d'administration qui va diriger les centres de services scolaires. Alors, c'est ce que j'ai à répondre, là. C'est complètement le contraire de la réforme Barrette. Fait que dans ce sens-là, je pense que c'est bien parti.
Puisqu'on parle de la réforme Barrette, on va parler de santé. Vous parlez de l'obtention d'une clinique d'hiver à Sorel-Tracy en janvier dernier, mais ça, c'était pour l'ensemble de la province. C'était pas un gain unique à notre région.
Ah, bien, il n'y en a pas eu partout, à ma connaissance, des cliniques d'hiver. C'est une forme de projet pilote, puis notre région en avait une en janvier dernier. Okay. Ça a permis d'assurer un meilleur accès aux soins de santé pour les patients orphelins de la région. Puis je vous l'annonce aujourd'hui, ça a tellement bien fonctionné que Mme Mécan, la ministre de la Santé, m'a confirmé que la clinique d'hiver sera de retour dans notre région, chez nous, encore une fois cette année. Je parlais l'autre jour avec des gens, puis il y a des spécialistes, vous savez, qui suivent exactement en Australie le type d'influenza, de grippe qu'ils ont connu. Ils sont complètement à l'inverse de nous, hein, dans le calendrier. Durant leur hiver, c'est sûr qu'il y a une forme aléatoire là-dedans, mais on est quand même, les spécialistes essaient d'identifier la souche qui devrait s'en venir en Amérique du Nord pour l'influenza. Puis c'est à ça que ça aide la clinique d'hiver, à faire de la prévention, puis aussi à traiter les gens quand il va avoir une pointe, parce qu'il va en avoir une pointe de grippe au courant de l'hiver prochain.
Quand on regarde les réalisations dont vous êtes particulièrement fier, on voit le resurfaçage du pont Maurice Martel. Certains experts ou peut-être gérants d'estrade, appelons-le comme on veut, disent que c'est un plaster sur un bobo, parce que ce qu'il aurait fallu faire, c'est refaire complètement une partie de la structure, et que là, en mettant une couche d'asphalte, ben les trous vont revenir. Vous en pensez quoi de ça?
Ben, c'est une information qui est tout à fait vraie. Il est prévu dans le plan quinquennal du ministère du Transport, la dalle de béton au complet doit être remplacée sur le pont Maurice Martel. C'est des travaux de plusieurs et plusieurs millions de dollars qui sont prévus dans un horizon d'environ 4 ans. Mais là, écoutez, on pouvait pas attendre jusque-là. Là. Ouais. Au niveau des transports, mon équipe et moi, on est intervenus pour assurer la sécurité des usagers en exigeant le resurfaçage immédiat en urgence du pont Maurice Martel, parce qu'on a un printemps qui était particulièrement ravageur. Là. Vous n'avez pas aidé le nombre de téléphones et de courriels que mon équipe et moi avons reçus, et à raison. Alors, c'est des travaux qui, initialement, ils figuraient pas à l'ordre du jour au ministère des Transports, puis suite à nos pressions que, finalement, ont été effectués. Moi, je suis très content. On ne peut que se réjouir quand on résout des problèmes.
Là. Absolument, vous avez tout à fait raison. Mais, comme on dit, il faut quand même prévoir et savoir que le problème aurait pu... On aurait pu pousser sur la machine pour que ça se fasse plus rapidement au complet, plutôt que de passer par une solution d'urgence, non?
Oui, vous savez, M. Lemay, c'est...
pas facile de faire bouger ce dossier-là.
La première idée qui m'est venue en tête, puis c'est ce que j'ai fait. Mais il faut comprendre qu'au ministère du Transport, on a un déficit d'entretien de nos routes à travers le Québec. Hein. Moi, je suis beaucoup sur la route, surtout entre Sorel et Québec, bien entendu. Mais nos routes sont éprouvées un peu partout, puis c'est des millions et des millions de dollars. Alors, c'est pour ça que c'est prévu dans des plans quinquennaux sur une base de 5 ans. Puis il y a un phénomène aussi auquel j'ai été interpellé qui a été mis en avant, c'est que la pénurie de main-d'œuvre touche également les entrepreneurs en construction qui sont chargés de réparer nos routes. Alors, on est même dans l'impossibilité là de réparer partout à la fois par manque de main-d'œuvre. On peut demander des soumissions, puis il y a zéro contracteur qui vont déposer parce que leur carnet de commande est complètement plein. Alors, moi, c'était très important pour moi de m'assurer que d'ici à ce que le travail complet sur le changement de la dalle de béton sur le pont Maurice Martel soit effectué, ben qu'on puisse quand même rouler dans des conditions acceptables d'ici là.
Dans le domaine des transports, on va souhaiter que on puisse se faire entendre avec plus de fermeté quand il s'agira de peut-être regarder vers le pont.
Ah oui, là, vous amenez un bon point. C'est ça, vous parlez des travaux. Vous savez que le comité sur la mobilité sont en marche. Ça va nous permettre d'établir les solutions pour améliorer la fluidité des transports dans la région. Oui, il y a l'axe nord-sud, il y a l'axe est-ouest aussi. Les travaux sont amorcés. On a déjà eu des rencontres. De mon côté, je souhaite que les travaux avancent plus vite, puis j'ai même avisé la direction de la MRC dernièrement, qui chapeaute le comité, que j'étais disposé à prioriser les rencontres dans mon agenda, même à m'absenter de Québec pour revenir rencontrer plus rapidement pour être en mesure d'y participer, parce qu'il faut que ça bouge un peu plus vite, là.
Avant d'être élu député, Jean-Bernard Raymond avait déjà une très bonne idée du rouage politique puisqu'il travaillait déjà à l'Assemblée nationale. Dans un an, qu'est-ce que Jean-Bernard Raymond a appris?
C'est une bonne question. C'est complètement différent. C'est vrai que ça fait quand même depuis 2012 que je suis impliqué avec ma formation politique et que j'ai travaillé comme conseiller politique auparavant. Mais d'être dans les souliers du rôle de député, j'ai beaucoup de respect pour tous mes prédécesseurs. J'avais une idée de la tâche qui m'attendait. Ceci dit, la dernière année a été très chargée, entre autres, au niveau des travaux parlementaires. Je veux pas trop m'avancer, là, mais je suis pas sûr que j'ai pas un collègue qui me disait que notre gouvernement avait pas un record de dépôt de projet de loi. Vous avez vu qu'on est un gouvernement qui tient à respecter ses promesses, entre autres avec la loi sur la laïcité. Et tout ça, ça demande beaucoup d'heures de présence à Québec. Là. Pour la petite histoire, pour les gens qui nous écoutent, les députés, on est appelés à siéger les mardis, mercredis, jeudis à Québec. Donc, ça nous permet d'être en compté les lundis, vendredis puis les week-ends aussi. Puis dans la dernière session, ben on a siégé beaucoup les lundis et vendredis. Ce qui fait en sorte que quand je revenais dans le comté, ben on était attendu, comme on dit. Puis c'est parfait, là. Les réunions se multiplient, puis les rencontres avec les organismes puis les citoyens qu'on veut aider. Ça a été une de mes surprises en tant qu'élu. Puis pendant que je parle des citoyens, j'en profite pour un point important du bilan annuel. Ça demeure l'aide apportée à nos citoyens. Puis parce que moi, c'est pour ça que je me suis impliqué en politique, là, avant tout, c'est pour aider mes concitoyens. Puis mon équipe et moi, on a contribué à régler à peu près 200 dossiers citoyens dans cette année, puis on va continuer dans ce sens-là avec les mêmes priorités. J'en profite pour des saluts à ma petite équipe de feu que j'ai au bureau, là, Virginie, qui travaille très fort pour aider les citoyens.
Ben, on arrive à la fin de cet examen de fin d'année-là, si on veut, qui est votre bilan, et dit avec humour, bien sûr. Mais vous parlez de promesses de votre gouvernement. Vous avez réalisé une de celles-là hier en répondant rapidement aux demandes des médias écrits pour l'aide nécessaire à leur fonctionnement pour plusieurs et à leur survie pour certains d'entre eux. Est-ce que on ne regarde que les journalistes qui travaillent dans l'écrit? Mais tous les journalistes écrivent, les journalistes des médias électroniques aussi. Est-ce qu'on a pensé à eux? Je sais que vous siégez sur un comité qui se penche là-dessus.
Oui, exact. Ce qui est annoncé par l'exécutif, par le ministre des Finances et la ministre de la Culture et des Communications, c'est une aide pour les médias écrits qui va faire en sorte de venir corriger ou en tout cas aider et supporter les médias écrits qui traversent une crise. Là, on n'a pas besoin de se faire de dessins, personne urgente et qui nécessitait une aide tout aussi urgente. Vous avez raison de dire que je participe aux travaux de la commission de la culture et de l'éducation, puis on a un mandat d'initiative sur l'avenir des médias. On a reçu de nombreux groupes. La commission, les travaux sont pas encore terminés puisque on a des collègues qui se rendent en région, à Matane et en Abitibi, entre autres, pour aller entendre les médias des régions. Puis c'est pas uniquement les médias écrits qu'on entend. On a entendu des médias électroniques, des gens de la radio, des gens des médias communautaires. Et puis, ben là, pour respect pour mes collègues, puis pour pas faire d'entorse parlementaire, je vais retenir mes commentaires parce que c'est tout ensemble. Tous ensemble, sans aucune partisanerie, hein, parce qu'il y a des groupes d'opposition puis des députés du gouvernement qui siègent sur cette commission-là. On va émettre un rapport dans lequel on va donner des pistes de solutions, puis on va voir pour la suite.
Ben oui, effectivement, parce que on a suivi ces travaux-là, puis on a vu à quel point les médias électroniques, on mange la misère aussi à ben des endroits. Ben merci beaucoup, Jean-Bernard Raymond. Je vais vous donner la note de passage cette première année.
C'est gentil, merci.
Ben, peut-être un peu plus même. Là. On va surveiller le travail de la prochaine, puis on va se reparler bientôt, bien sûr.
Comme ancien professeur, combien se donne Jean-Bernard Raymond comme note de passage?
Ah, écoute, comme ancien professeur, j'avais l'habitude de noter mes élèves, mais jamais mon propre travail. Fait que je vais laisser ça aux électeurs. Ce sont eux mes boss, hein, tous les citoyens de Richelieu. Je les invite à suivre l'évolution de nos dossiers. Moi et mon équipe, on est fiers de la première année. On va continuer à travailler fort pour la suite.
Bien.
Merci beaucoup pour votre accueil, c'est gentil.
Merci beaucoup, Jean-Bernard Raymond.
Au revoir, bonne fin de journée.
À la prochaine, au revoir. Ben, on va poursuivre en tout simplement vous disant au revoir à notre tour.
Absolument.
Parce que c'est le mot de la fin déjà. On a dépassé pas mal notre temps alloué ordinairement.
Émission spéciale jeudi prochain, Jean, peut-être en aviser
nos toucher un mot, effectivement. La semaine prochaine, comme c'est la coutume, on va aménager une émission qui, par tirage au sort, va vous présenter les candidats. On aurait voulu vous présenter tous les candidats. Mais il y a Mme Leonard qui a jamais retourné toutes nos communications, appels, Messenger, etc. Il y a Monsieur Sinotte qui également ne répond pas à l'appel, qu'il est sur la route à quelque part et puis ça semble bien compliqué. Il n'a même pas retourné notre dernier appel. Il aurait pu au moins fonctionner par téléphone comme ça avait été évoqué. Mais alors, on va remercier ceux qui ont participé.
Exact. Et qui sont concentrés là-dessus. Ouais.
Et qui seront là dans cette émission spéciale de 4 volets la semaine prochaine. Avec les principaux partis, finalement, qui sont représentés à la Chambre des communes, soit le député sortant, Louis Plamondon, du Bloc québécois. Il y aura également aussi le Parti conservateur du Canada avec Pierre-André Aymon. Et puis, on aura également aussi, bien sûr, Nathalie Rochefort, du Parti libéral du Canada. Et le Parti vert sera représenté par David Turcotte.
Oui.
Merci à toi d'avoir participé. On s'est changé vite entre les deux segments. Vous aurez remarqué qu'on avait préenregistré la dernière entrevue que vous avez entendue avec notre député provincial qui, malheureusement, n'était pas disponible ce midi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Oui, pour une émission spéciale élection.
On va survivre la semaine qui s'en vient. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir.
Bye-bye.